Bonjour. Jacques nous a parlé entre autres du changement que Dieu désire faire en nous. Et c'est intéressant parce que dans le sujet que je vais traiter ce matin, il est aussi justement question du changement que Dieu désire faire en nous, dans nos vies. Ce matin, c'est le sujet de la traversée du Jourdain. Alors ce message, il s'inscrit dans la série sur la conquête du pays promis. Il fait donc suite au message que Pierre et John nous ont apporté ces derniers mois. Le thème de la conquête du pays promis est riche en images sur le comment entrer pleinement dans la vie chrétienne. De la même façon que les Hébreux avaient à entrer dans le pays promis et ne pas se laisser effrayer, nous aussi nous avons à entrer pleinement dans la vie chrétienne. Nous avons en effet de nombreuses promesses qui nous assurent que Christ nous a précédés, que la victoire est déjà remportée et que le Saint-Esprit agit en nous pour faire de ces promesses une réalité accessible dès maintenant et sans attendre l'éternité future. Cette réalité, c'est déjà pour aujourd'hui. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur les chapitres de Josué 3, 4 et 5. Rassurez-vous, on ne va pas les lire, parce que c'est quand même trois chapitres. Ces chapitres nous décrivent principalement la traversée du Jourdain et les dernières préparations en vue de la conquête. Alors, dans ce qu'on va voir, il y a la notion de symbole. Il faut bien comprendre que l'histoire du peuple choisi par Dieu est utile aussi pour nous, croyants du XXIe siècle. Elle est donc à comprendre de façon symbolique. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Il nous dit aussi, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ces symboles nous sont donnés pour nous instruire. Ils sont donc concrets, pratiques. Ce ne sont pas que des théories compliquées et qui nourrissent seulement notre intellectuel. Ces symboles doivent aussi parler à notre cœur. Ils doivent guider et jalonner le développement de notre vie spirituelle de façon toute pratique, et ce pour tous les jours. Alors, voyons déjà quel est le contexte de la fin du voyage dans le désert du peuple hébreu. C'est important afin de bien comprendre les interactions, puis ce qui se passe après, notamment au niveau de la traversée du Jourdain. Alors, je vous invite à replacer en quelques mots ce contexte. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'avant de quitter l'Égypte, les Hébreux y sont restés 430 ans. 430 ans, 14 à 15 générations, bien assez pour oublier tout ce qui s'était passé avant. En Égypte, leur situation s'était dégradée et ils étaient devenus les esclaves des Égyptiens. Ensuite, il faut bien comprendre que leur départ d'Égypte n'a pas été sans mal. Ça a été un bras de fer terrible qui les a opposés au Pharaon et même aux Égyptiens, à l'armée aussi de Pharaon. Et il a fallu les 10 plaies d'Égypte, et surtout cette 10e plaie très violente, puisqu'elle a entraîné la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Et c'est après ces 10 plaies qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Ensuite, la traversée du désert. La traversée du désert, le passage de la mer Rouge, entre autres, qui est un des premiers éléments de la traversée du désert, passage miraculeux avec, entre autres, l'anéantissement de l'armée de Pharaon. Donc, ils ont vécu des choses très fortes, très grandes, avant d'arriver de l'autre côté du Jourdain face à ce pays promis. Ensuite, dès qu'ils ont passé la mer Rouge, il y a eu une première visite du pays promis. Et suite à cette première visite, l'incrédulité du peuple, malgré les témoignages positifs de Josué et Caleb. Et cette incrédulité a entraîné l'errance de 40 ans dans le désert, afin que le peuple incrédule meure dans le désert et que ce soit leur descendance qui vive la conquête du pays promis. Donc ceux qui se sont trouvés face au Jourdain, face au pays promis, ce ne sont pas ceux qui ont quitté l'Égypte, hormis Josué et Caleb, c'était une nouvelle génération. Voici donc ce peuple, ce jeune peuple qui arrive dans le désert, à l'est du pays de Canaan, en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Alors, l'événement principal de Josué 3, 4, 5, c'est sans doute la traversée du Jourdain. Cependant, la portée spirituelle pour nous est large. Et pour la comprendre pleinement, il vaut la peine de considérer, en même temps que la traversée du Jourdain, de considérer deux autres événements qui étaient antérieurs, qui sont la Pâque et la traversée de la mer Rouge. Ces trois événements, en fait, sont l'image pour nous de trois étapes en lien avec notre conversion. Ces trois étapes de notre vie spirituelle sont normalement, très souvent, proches dans le temps, pour nous qui les vivons. Mais elles sont surtout complémentaires. Elles sont aussi liées entre elles. Elles s'enchaînent les unes avec les autres. Ces symboles que nous abordons aujourd'hui, il faut bien comprendre aussi qu'ils nous concernent tous. Même si on est chrétien depuis longtemps, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, parce qu'en fait, on trouve dans ces images les bases et le fondement de notre relation avec Dieu. Et c'est sur ces bases que notre vie se développe au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. Donc c'est important de revenir à ces bases. Donc la Pâque, la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Même si la traversée du Jourdain s'est déroulée 40 ans après la traversée de la mer Rouge, elle en est bien la suite toute logique. En effet, ces 40 ans passés dans le désert sont une parenthèse imposée par Dieu suite au manque de confiance des Hébreux. Alors tout d'abord, la Pâque. La Pâque a été instituée lors de la dernière plaie que Dieu a infligée aux Égyptiens pour permettre au peuple hébreu de quitter l'Égypte. Lors de cette première Pâque, les Hébreux devaient égorger un agneau sans défaut. Ils devaient enduire le sang, enduire du sang de l'agneau, les montants et le linteau de la porte d'entrée de leur maison. Et on lit en Exode 12 ce que l'Éternel allait faire. Exode 12, versets 12 et 13. « Cette nuit-là, c'est l'Éternel qui parle, cette nuit-là je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » On voit donc bien que Dieu se présente ici comme un juge. Le sacrifice de l'agneau répond aux exigences du jugement divin et le sang qui résulte du sacrifice de l'agneau protège les Hébreux. Il protège les Hébreux dans la mesure où il est mis sur les montants de la porte et sur le linteau de la porte. Et de la même façon que l'agneau de la Pâque devait mourir, Christ a donné sa vie pour nous. Lui qui est sans défaut, sans péché, il a donné sa vie, c'est-à-dire il a répondu aux exigences du jugement divin à notre place. Il a pris sur lui la mort que nous méritions. La Pâque est donc une image de la mort de Christ pour nous. L'agneau est une image de Christ qui prend sur lui la condamnation liée à notre état de pécheur. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors concrètement, comment est-ce que cela se passe pour nous en 2014? Moi je dirais, tout d'abord, après avoir compris la nature réelle de Dieu et tout particulièrement sa sainteté, après avoir compris mon propre éloignement naturel de Dieu et donc mon état de pécheur, après avoir compris aussi la réalité et la suffisance de l'œuvre du salut accomplie par la mort en Jésus-Christ à la croix, après avoir compris tout ça, j'accepte personnellement sans aucun mérite, le salut offert en Jésus-Christ. C'est l'étape du salut. Voyons maintenant le deuxième point, la traversée de la mer Rouge. En quittant l'Égypte en direction du désert, les Hébreux se sont retrouvés face à la mer Rouge. Au moment où les Égyptiens ont regretté de les avoir laissés partir et ont voulu les rattraper pour les faire revenir. Les Hébreux se sont donc retrouvés coincés, pris en étau, entre la mer Rouge d'un côté, enfin face à eux, et l'armée égyptienne de l'autre côté derrière eux. Moïse a étendu sa main sur la mer et Dieu a repoussé les eaux de la mer. Les Hébreux sont entrés dans la mer à sec et les Égyptiens les ont poursuivis. À la fin de la nuit, Moïse a de nouveau étendu sa main, mais de l'autre côté, sa main sur la mer, de l'autre côté, du côté des Égyptiens, et Dieu a refermé la mer sur eux. Ils ont été engloutis. Le peuple qui venait d'échapper au jugement des premiers-nés lors de la première Pâque, il avait encore besoin de la délivrance de Pharaon et de son armée. Dieu s'est manifesté alors comme le libérateur. Le passage de la mer Rouge est une figure de la mort de Christ qui nous arrache à la puissance de Satan. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, « Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui a exercé le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Alors là, deux petites remarques. De la même façon que les Hébreux ne pouvaient pas se protéger de l'armée de Pharaon par eux-mêmes, nous non plus, on ne peut pas nous délivrer par nous-mêmes de la puissance de Satan. Et de la même façon aussi que les Hébreux ont fait confiance à leur Dieu et ont avancé dans la mer Rouge à sec, bon, vous me direz, ils n'avaient peut-être pas d'autre solution, hein. Mais nous aussi, on a à nous appuyer sur les promesses de Dieu pour être délivrés de la puissance de Satan. C'est ici l'étape de la libération. Et voyons maintenant cette troisième étape qui concerne le passage de Josué, qui est l'étape de la traversée du Jourdain. Alors, après avoir erré 40 ans dans le désert, on l'a déjà dit, tous les hommes sortis d'Égypte sont morts, hormis Josué et Caleb. Moïse n'est plus là non plus, et le peuple se trouve face au pays promis, mais il est de l'autre côté du Jourdain. C'est là le texte, c'est ce qui nous est expliqué en Josué 3 et 4. La traversée du Jourdain est l'image de notre aspect de la mort de Christ pour nous. Cependant, le vécu pour les Hébreux est tout différent de la traversée de la mer Rouge, et l'application pour nous aussi est toute différente. En fait, les deux sont complémentaires. On va lire en Josué 3, les versets 15 à 17. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. Donc en fait, ils sont arrivés face au Jourdain au moment de l'année où il y a le plus d'eau dans le Jourdain. L'eau qui arrive dans le Jourdain s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, donc à quelques dizaines de kilomètres, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée, c'est-à-dire elle est partie vers la mer morte, il n'y avait plus d'eau. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, donc à l'endroit le plus profond, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Alors, contrairement à la traversée de la mer Rouge, où les Hébreux étaient acculés, face au Jourdain, c'est librement qu'ils décident de le traverser pour conquérir le pays promis. C'est un acte volontaire, une obéissance au commandement de Dieu. Pour comprendre la signification de cette image pour nous, lisons l'allusion que Paul a faite à cet événement. Et on trouve ça dans les Romains. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Puisque nous sommes unis à Christ dans sa mort, nos mauvais désirs et nos liens avec le péché sont réduits à l'impuissance. Et le verset 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne serions plus esclaves du péché. » Désormais, unis à lui, par la foi en sa résurrection, nous jouissons d'une communion constante avec Dieu et d'une liberté réelle face au pouvoir que le péché exerçait sur nous. Le pouvoir du péché sur nous a été brisé par Christ à la croix. Et on lit aussi dans Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je l'ai vu dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et pour mieux faire la différence d'application entre la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain, on peut dire que ce qui correspond à la traversée de la mer Rouge, c'est quand je peux dire avec l'apôtre Paul, « Christ est mort pour moi ». Et ce qui correspond à la traversée du Jourdain, dans ma vie, c'est quand je peux dire aussi avec Paul, un chapitre plus loin, « Je suis mort avec Christ ». Vous voyez la différence là ?« Je suis maintenant mort avec Christ. » Et donc, étant mort avec Christ, je renais. Je renais nouveau avec lui. Et c'est 2 Corinthiens 5 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous saisissez la différence qui est très intéressante. Moi, j'ai beaucoup appris de préparer ce message. J'espère que j'arrive à vous le transmettre. Et c'est là donc l'étape de la nouvelle naissance. Ensuite, il y a eu encore d'autres événements. Il y a eu 2 autels faits avec 12 pierres chacun. On voit aussi dans ces passages que Dieu demande à Josué de faire 2 autels. Un premier qui a été fait au milieu du Jourdain, donc tout en bas, au milieu du Jourdain, et un deuxième qui a été fait après avoir passé le Jourdain. Pour le premier, dans le Jourdain, on lit dans Josué 4, le verset 9, Josué a obéi en fait au commandement de l'Éternel. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Ce tas de pierres qui a été fait là a été fait pour laisser une trace et pour se rappeler que le peuple était bien passé par le Jourdain à pied sec. L'image que nous pouvons en tirer est le fait que nous aussi nous devons nous souvenir que, étant morts avec Christ, nous sommes maintenant une nouvelle création. Et là, on se souvient du passage concret, disons, de la correspondance du passage dans le Jourdain, du fait qu'on est mort avec Christ. C'est important de s'en souvenir, afin de ne pas laisser de place à notre nature propre qui ne demande qu'à se manifester à nouveau. Et puis, le deuxième tas de pierres qui a été construit par Josué, et là on lit les versets 20 à 22 du chapitre 4 de Josué, « Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. » Donc ce sont 12 pierres qui ont été retirées du milieu du Jourdain par 12 personnes, une personne de chaque tribu. Et donc Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ? vous les instruirez en disant « Israël a passé le Jourdain, que voici, à pied sec. » Ce deuxième tas de pierres prises dans le Jourdain permettait aux Hébreux de se rappeler, donc il leur permettait, après le passage, de se rappeler qu'ils étaient entrés par là dans le pays promis. Les 12 pierres, une pour chaque tribu, leur rappelaient aussi qu'ils ne sont qu'un seul peuple. C'était donc le rappel de leur unité. Gilgal est un lieu où ils sont ensuite revenus souvent pour se rappeler leur histoire et aussi pour instruire leurs enfants, pour transmettre cette histoire à leurs enfants. Nous aussi, nous avons à nous rappeler que la mort et la résurrection de Christ nous ont non seulement délivrés de nos ennemis, mais qu'elles ont déjà fait de nous une nouvelle création. Ensuite, le peuple hébreu a vécu un autre événement important qui est la circoncision. Pendant la traversée du désert, les Hébreux n'ont plus pratiqué la circoncision puisqu'ils étaient en voyage et c'était pas adapté. Il était donc le temps de rétablir ce signe de distinction entre eux et de pratiquer cette obéissance à la loi. Pour nous, la circoncision est l'image du Saint-Esprit présent en nous. Le Saint-Esprit est en effet un signe pour les autres et aussi le lien qui nous unit. On lit en Éphésiens, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et puis on lit aussi en Colossiens, « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. » En conclusion, dans ces trois aspects que sont la Pâque, la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain, nous comprenons bien que l'œuvre accomplie par la mort de Jésus-Christ est non seulement complète, elle est non seulement complète, mais elle est aussi définitive. Elle est définitive et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu et de Dieu seul. Il y a donc un avant et un après. L'ennemi a été vaincu une fois pour toutes, il y a 2000 ans, lors de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est définitif, oui. Les Hébreux sont dans le pays promis, mais tout reste à faire. Tout reste à faire dans le sens où il faut maintenant conquérir ce pays. Et pour nous, non seulement l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est définitive, mais en plus, elle est déjà accessible. De la même façon que les Hébreux étaient déjà dans le pays promis après avoir traversé le Jourdain, nous aussi, nous sommes déjà au bénéfice des promesses. Et de la même façon que les Hébreux avaient à conquérir le pays, nous avons nous aussi des victoires à remporter. Mais les batailles sont déjà remportées, en fait. La victoire est déjà remportée. Et on lit dans Colossiens 2, « C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Je vous invite maintenant à un temps de réflexion pour savoir chacun où est-ce qu'on en est finalement dans ce cheminement. C'est vrai qu'on voit tout un cheminement, un développement, un chemin à parcourir. Moi, je vous invite à une petite minute de silence et posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes exactement? Où est-ce que Dieu, quel est le pas suivant vers lequel Dieu veut vous amener? Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as tout accompli pour qu'on soit rapprochés. Tu as tout accompli pour que notre salut soit effectif. Merci parce que ce salut est non seulement accompli, mais définitif. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Et merci parce que tout cela a été préparé d'avance, comme nous l'a rappelé Jacques ce matin. Merci parce que de toute éternité, tu avais prévu le moyen de nous rapprocher de toi. Sois loué, Seigneur, parce que tu désires nous révéler ces choses afin que l'on grandisse en toi et afin que l'on vive pleinement ces promesses que tu as pour nous. Sois loué, sois béni, Seigneur, parce que tu es non seulement grand et puissant, mais tu t'intéresses à chacun de nous de façon personnelle, de façon concrète, et tu veux te révéler profondément à chacun, à chaque personne. Amen. C'est intéressant parce que ce matin, ça tombe, on a le partage de la scène. C'est intéressant parce que partager la scène, c'est justement se rappeler la mort de Christ. La mort de Christ, mais aussi sa résurrection, puisque c'est aussi annoncer son prochain retour. Mais c'est aussi se rappeler de toute l'œuvre magnifique et complète, œuvre de salut, de libération, et enfin cette œuvre de nouvelle naissance, de la vie nouvelle qui en découle. Et je vous invite à vous examiner ce matin. Il y aura un temps, justement, lorsque les éléments vont circuler. Je vous invite à prendre ce pain, à partager ce pain, à prendre ce jus de raisin, tout en vous appropriant tout à nouveau ces promesses. Je vais demander à Pierrick et Charlie de s'approcher pour faire le service.
Merci Seigneur pour ce moment, pour ce partage du pain et du vin qui nous rappelle ce que tu as accompli à la croix pour nous. Seigneur, je prends ce repas avec tous mes frères et je te remercie pour ce symbole. Et nous attendons aussi avec impatience le jour où nous pourrons prendre ce repas avec toi.
Oui Seigneur, quel privilège de faire partie de ta famille, d'être des enfants sauvés, justifiés à cause de ton sacrifice sur la croix. Je me réjouis, Seigneur, de prendre ce repas avec mes frères et sœurs, car tu nous lies par ton esprit et nous voulons nous réjouir parce que tu es vivant, tu es ressuscité et que nous voulons te laisser la place quotidiennement pour que tu nous aides à marcher avec toi jour après jour. Amen.
On arrive aux annonces. Alors tout d'abord, le programme de la semaine. Demain soir, lundi, la chorale se retrouve à Saint-Genis, à 20h30. Mardi soir, l'étude biblique. Donc c'est la suite du livre « Connaître Dieu » de James Packer. Alors, des livres sont disponibles à la librairie. Par contre, je ne me rappelle plus les chapitres qui étaient.
Le chapitre 10 qui sera étudié voilà. Mardi. Le chapitre 10, la sagesse de Dieu et la nôtre. Donc, c'est un sujet très, très intéressant qui fait suite à ce qu'on a abordé jusque-là. Mm-hmm. Et moi, je vous invite à ceux qui n'ont pas les livres et qui suivent régulièrement cette étude à aller les prendre à la librairie. Il y en a une dizaine qui ont été commandées. Et pas seulement à lire le chapitre 10, mais tout le livre. Et ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à l'étude. On continue de recommander ce livre qui nous ramène vraiment. L'idée, ce n'est pas d'étudier le livre, hein, mais bien Dieu lui-même. Et ce livre nous ramène beaucoup à la parole de Dieu. Et c'est sur ce domaine que nous travaillons justement pour que Dieu nous apprenne à le connaître et à le connaître vraiment lui.
Ouais. Merci. Donc, le chapitre 10 du livre Connaître Dieu qui est donc disponible à la librairie. Mercredi, on a le conseil à 19h30. Jeudi, d'une part, il y a le parcours baptême à 20h30, donc la première rencontre. peut-être contacter moi ou contacter un des anciens, ou bien Jean-Paul. Comme ça, Jean-Paul peut organiser un petit peu en fonction du nombre de personnes. Jeudi soir, le conseil va aussi rencontrer le conseil de l'église de Saint-Genis. Et puis samedi, il y a le séminaire sur l'islam, samedi après-midi, de 13h30 à 17h30. Donc on commence assez tôt, mais c'est aussi pour finir assez tôt. Donc trois points qui seront abordés cet après-midi, le samedi après-midi. Donc une brève introduction historique. Ensuite, les principales objections de l'islam à la foi chrétienne. Et enfin, le dernier point, qui est concernant la crise de l'islam et les appels à la réforme donc interne à l'islam. Samedi soir, le groupe de jeunes. Oui, donc c'est Christian Bibolet qui donne ce séminaire. Donc Christian préside le groupe de travail sur l'islam au niveau du réseau genevois. Dimanche, on commence la journée aussi assez tôt, mais c'est pour quelque chose de tout différent. Le petit déjeuner préparé par le groupe de jeunes. Donc à 8h, à partir de 8h. Donc il y a une liste sur le tableau au fond pour s'inscrire, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose s'il faut préparer pour 40 ou bien pour 80. Et puis ce petit déjeuner est préparé au bénéfice de l'Église persécutée, au profit de l'Église persécutée. Donc, il n'y a pas de prix de fixé, mais chacun donne librement ce qu'il souhaite et ce qu'il peut, et ce qui sera donné sera reversé au profit de l'Église persécutée. Et puis ensuite, le culte, qui sera le culte sur l'Église persécutée aussi, puisque c'est le dimanche de l'Église persécutée. C'est important aussi de nous associer aussi, de soutenir et d'être aussi au courant de ce qui se passe dans les autres parties du monde où il n'y a pas la liberté que nous avons comme chez nous. Ensuite, on a les remerciements de la famille Gézère suite au décès de Liliane. Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que vous nous avez témoigné lors du deuil qui vient de nous frapper, nous vous exprimons nos plus vifs et sincères remerciements. Soyez bénis, soyez gardés, soyez consolés aussi dans votre famille suite au deuil de Liliane, au décès de Liliane. Les calendriers pour 2015 sont disponibles. Donc Anne-Marie s'occupe de la vente. Il y a une table au fond de la salle à côté de la librairie qui est réservée pour cela. Et puis juste l'information quand même qui est importante, qui est toute pratique, mais qui est importante aussi, c'est que c'est une caisse séparée de la librairie. Donc ne prenez pas un calendrier en donnant des sous à la librairie, ce sont deux caisses différentes. Vous rappelez aussi la banque alimentaire pour laquelle les églises protestantes du pays de Gex sont engagées pour donner un coup de main pour récolter les aliments, qui va se dérouler les vendredis 28 et 29 novembre. On peut déjà s'inscrire en suivant les liens qui sont marqués sur le site. Si quelqu'un n'avait pas d'accès Internet ou pas d'accès au site, faites-nous le savoir, on peut vous inscrire, il n'y a pas de souci. Donc je vous invite à vous lever pour vous lire encore deux versets dans Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.